Voilà, donc je vais exposer les principes du tantra parce que c'est souvent assez flou, confus ou méconnu de certaines personnes, les buts du tantra. Hein. Est-ce qu'il y a dans la pièce des personnes qui ne connaissent pas du tout? Ouais. D'accord. Donc, bienvenue à découvrir. Hein. Et puis, sur mon invitation, j'ai marqué soyez détendu et naturel. Hein. C'est un enseignement tantrique qui a été donné il y a 1000 ans par un maître qui paraît simple hein, et en même temps qui peut se révéler complexe à mettre en œuvre hein, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment détendu en toute situation hein, parce qu'il y a des situations plus propices à d'autres que la détente et puis il y a des situations où ça devient très compliqué d'être détendu. Qu'est-ce qui nous empêche d'être naturel également, connecté à notre nature? On pourra avoir l'occasion d'y revenir. Alors, je dis d'emblée que je ne suis pas là pour annoncer des vérités, hein, mais je suis là pour dire ma vérité à propos du tantra, au travers de mes expériences et au travers de comment je conduis des groupes de tantra depuis à peu près 12 ans. C'est intéressant de dire que j'ai démarré le tantra il y a une douzaine d'années en plongeant dans le premier atelier et en tirant une expérience assez extraordinaire pour moi. Donc c'était comme un rendez-vous. Demander à une femme si elle voulait bien faire l'exercice avec moi. Et puis, elle m'a dit non. Et puis, ce n'était pas une catastrophe. Et ce simple fait-là, alors qu'avant, ça aurait pu être une catastrophe d'entendre qu'on me dit non, ça a déclenché toute une série de bouleversements intérieurs, dans le sens positif, qui m'ont amené à une sorte d'extase, de félicité. Et puis, j'ai pu vivre ce stage d'une manière très très intense. Alors c'est pas une recette magique, hein. Je peux dire que peut-être que j'étais prêt pour le tantra et que j'avais franchi toute une série de pas et puis le dernier a fait basculer quelque chose. Mais alors j'ai vécu quelque chose comme l'éveil du féminin en moi, c'est-à-dire je suis devenu sensible à des tas de choses auxquelles je n'étais pas sensible avant. Mais d'un coup, d'un seul coup. La musique classique, l'architecture, la déco, la beauté. Et puis, chose assez impressionnante, j'étais venu à ce stage de tantra en me posant intérieurement une question. Comment séduire les femmes? C'était ma question à l'époque. Hein. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que je suis reparti de ce stage. J'avais pas la réponse, mais je n'avais plus la question. Donc c'est assez intéressant parce que ça m'a amené à trouver des choses en moi qui ont fait que la question n'était plus pertinente. Il n'y avait plus besoin de séduire les femmes. Voilà, donc ce soir c'est une conférence partage. Ça veut dire que si à n'importe quel moment il y a quelque chose qui n'est pas clair, si à n'importe quel moment vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire au milieu, interrompre et puis poser une question ou émettre une remarque sans attendre forcément le temps d'après où les questions seront accueillies et possibles. Je vais, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis ça peut être un rappel pour les autres, parler brièvement des origines du tantra, parce que ce texte-là que vous voyez et qui tient en 3 pages à 4 est donné comme étant plusieurs fois millénaire, c'est-à-dire il a entre 8 et 10 000 ans d'âge, c'est une traduction. Hein. Ça s'appelle Vijnana Bhairava Tantra, ça veut dire technique d'expansion de la conscience. Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est un ensemble de préceptes. C'est quoi des préceptes? C'est des genres de méditation. Des phrases hein, qui s'applique à la vie de tous les jours et qui vise à augmenter la conscience qu'on a de nos actes par les sens, par la respiration, par la relation, par des postures, par des choses diverses, hein, pour augmenter la conscience. Pendant près de 5000 ans, ça a été fait seulement par oral, c'est-à-dire que c'était un maître qui enseignait à son disciple, et puis le disciple devenait maître, et ainsi de suite, il n'y avait aucun écrit. 5000 ans, c'est énorme, hein, au niveau enseignement. Et pendant les 3 derniers milliers d'années, il y a eu un écrit, et c'est celui-là. Hein. Donc c'est sous la forme d'un dialogue amoureux, mythique, hein, c'est un peu de la mythologie entre un dieu et une déesse, Shiva et Shakti, qui parle de la non-dualité, hein, comment les choses sont perçues séparées et comment les choses peuvent revenir à l'unité avec cette technique. Alors, je peux vous en lire une, hein, c'est des préceptes qu'on applique de temps en temps dans les groupes de tantra. La plupart du temps, c'est très simple, hein, c'est une phrase, comme le précepte 45. Lorsque tu retrouves un être aimé, sois totalement dans cette félicité et pénètre cet espace lumineux. Voilà, lorsque tu retrouves un être aimé, sois totalement dans cette félicité et pénètre cet espace lumineux. Ce précepte a l'air très, très simple. En vérité, ce qu'il dit, c'est que si je retrouve quelqu'un de très très cher, que j'aime énormément, ce n'est pas cette personne, lorsqu'elle vient me voir, qui m'amène la joie. Hein. Cette personne me rappelle, allume le feu d'artifice de la joie qui est déjà en moi. Sinon, ce serait une mauvaise nouvelle parce qu'elle pourrait repartir avec ma joie. Hein. Alors que là, la félicité, je l'ai, mais je m'en souviens lorsque je retrouve quelqu'un de très cher. Et cet espace lumineux, ben, c'est l'espace de la conscience qui s'expand, qui s'ouvre, qui devient immense. Alors, dans ces 112 préceptes, il est dit qu'il y en a un qui vous correspond forcément, que vous avez à le trouver. Comment le trouver? En pratiquant. Donc, on pratique une semaine, deux semaines, on en choisit un, bien sûr, et puis si quelque chose commence à grandir au niveau du ressenti, de la conscience, on continue, et puis si ce n'est pas le cas, on choisit un autre. Alors, celui qui est pour vous, il est dit qu'il vous amènera à l'illumination, c'est-à-dire l'expansion complète de la conscience. Hein, la joie pure, celle qui n'a pas d'opposé. Donc, c'est un texte que je considère comme sacré parce qu'il est très très ancien, avec beaucoup de sagesse. Je le donne par email à ceux qui veulent pratiquer, mais seulement à ceux-là, hein, ceux qui veulent essayer en tout cas. Donc demandez-moi-le par email si vous vraiment vous sentez que vous voulez tenter d'essayer cette pratique. Voilà pour les origines. Aujourd'hui, à notre époque, il y a un tantra qui est un petit peu différent de ces 112 préceptes, même si parfois on les applique. Ça s'appelle le néo-tantra. Le néo-tantra, c'est celui que Osho a introduit. Osho, c'est un maître tantrique qui a introduit le tantra en Occident. Hein, et c'est le néo-tantra. Quelle est la différence? C'est que ça fait un peu plus intervenir le corps et l'énergie du corps. Ça fait un peu plus intervenir l'énergie sexuelle parce que dans nos sociétés modernes actuelles, il y a énormément de peur dans le corps et avec l'énergie sexuelle. Donc le tantra s'occupe des peurs là où elles sont. S'il y avait des peurs dans le petit doigt, ben, le tantra s'occuperait du petit doigt. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Redresse-toi. Voilà. Mais il s'avère que dans la zone sexuelle et puis dans le corps d'une manière générale, c'est pas du tout facile d'être détendu pour la plupart des gens, à part dans un cadre très sécurisé, très intime, hein, dans le cadre du couple ou dans d'autres cadres. Donc le néo-tantra dit aussi, et Osho le dit, que l'énergie de vie commence dans le bassin et ensuite monte dans le cœur et dans la conscience, hein, dans le chakra couronne. Osho le dit de manière imagée en disant ceci: le sexe est un début et non une fin, mais si vous ratez le début, vous raterez aussi la fin. Ça veut dire que si je ne m'occupe pas de libérer un petit peu l'énergie vitale, la sensualité, l'énergie sexuelle en libérant les jugements et les peurs, alors c'est comme si je fermais le robinet sur une énergie très puissante, mais que je distille au goutte à goutte pour aimer plus et pour être plus conscient. Hein. Tout simplement parce que l'énergie de vie prend sa racine dans le bassin. Hein, c'est ce qu'on appelle la kundalini. Donc c'est pour ça que le tantra s'occupe un petit peu, dans sa version moderne, d'énergie sexuelle. Voilà, alors je vais dire en une seule phrase quel est le vrai but du tantra. Hein, le vrai but du tantra, c'est d'expandre la conscience, c'est-à-dire vous ouvrir à la voie de la vraie joie et du vrai bonheur qui ne dépend de personne d'autre en vous, mais le bonheur d'être plus vrai, le bonheur d'être vraiment vous-même. Hein. Et en deux mots, ça se dit tel quel, d'être tel quel. Hein, c'est une bonne définition du tantra. Tel quel, ça veut dire que si je suis en colère, je peux l'exprimer au moment où c'est là. Et si je suis joyeux, je peux l'exprimer aussi au moment où c'est là. Et si j'ai de la gêne, je peux aussi exprimer la gêne. Je peux arrêter de porter des masques. Hein. Pourquoi je porte des masques? Parce que je ne suis pas libre. Parce que j'ai envie qu'on ne me juge pas. J'ai envie de faire comme tout le monde. Je me protège du regard de l'autre, etc. Donc pour être vrai, et c'est vraiment le but du tantra, c'est être plus vrai dans votre vie. Hein. Quand vous êtes plus vrai, forcément l'énergie coule en vous plus facilement, il y a plus de joie plus facilement. Parce que lorsque vous n'êtes pas vrai, vous créez des conflits à l'intérieur, des petites guerres. Hein. Je suis en colère, mais je fais un sourire. Bien sûr, l'énergie, elle ne colle pas, hein, à l'intérieur. Je suis triste, mais je garde tout ça soigneusement caché à l'intérieur. Donc, on s'occupe dans le tantra de trouver une plus grande liberté avec nous-mêmes. Hein, pas avec l'autre, avec nous-mêmes. Parce que lorsque je suis plus libre avec moi, alors bien sûr, mes relations avec mon entourage changent, puisque quelqu'un qui est libre, bah, ça se remarque tout de suite, hein, ça fait des vagues. Donc, on ne fait pas des exercices pour trouver la liberté. Dans le tantra, on essaye plutôt de regarder ce qui nous empêche d'être libre. Parce que dès que j'ai trouvé ce qui m'empêche d'être libre, je peux agir dessus. Merci. Voilà, d'abord répondre à l'interphone. Merci, Jack. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être plus libre dans notre vie de tous les jours, d'après vous, qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Les peurs, oui. Les croyances, excellent, oui. Voilà, n'importe quoi, hein, un mot qui vous vient.
L'éducation.
Oui, l'éducation, ça c'est un gros paquet. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les jugements, ça c'est aussi un gros paquet. Les angoisses, ça fait partie aussi des peurs, oui, oui. Voilà, l'image ou le manque d'estime, hein, qu'on a de soi-même, l'image, mais l'image c'est aussi important. Oui, 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 la colère c'est une forme de limitation. D'autres idées? Voilà, la tristesse, oui, ça empêche aussi d'être libre. Surtout quand c'est pas exprimé, hein. Puisque, pardon,
la famille,
oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est tous les conditionnements sociaux, en fait, hein. En famille, il faut ou alors on m'a dit que, etc. Hein, il y a des choses qui se font et puis d'autres qui ne se font pas, par exemple. Alors les conditionnements, c'est une grosse couche, une très très grosse couche, puisque notre esprit est très conditionné par ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Hein. C'est pas seulement vous, c'est pas seulement vos parents, c'est les parents de vos parents, et puis c'est des dizaines de générations avant vous qui ont dit ceci c'est ok, ceci c'est pas ok. Hein. Ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Et puis parfois vous comportez en fonction de conditionnements, vous savez même pas d'où ça vient. Hein. C'est pas forcément les vôtres. Hein. Et c'est important de les repérer, ces conditionnements. Parce que certains, ils n'ont plus d'utilité, ils n'ont plus de sens, mais vous continuez parce que vous êtes habitué, hein, à les perpétuer. Alors, il y a aussi les tabous, hein, les choses qu'il ne faut absolument pas aborder, il y a aussi les mémoires, hein, qui viennent perturber ma liberté. Etc., etc. Bonsoir. Il y a des places devant, hein, si vous voulez. Alors, tout ce qu'on a dit, tout ce qui limite la liberté, ça divise la réalité. Alors, je vais expliquer ce que j'appelle diviser la réalité. Quand je juge quelque chose, bien sûr, ça limite ma liberté parce que je dis, il ne faudrait pas faire ça. Ou alors, il ne faudrait pas que le monde soit dominé par l'argent, hein, c'est un jugement. Alors, je divise la réalité parce que je crée une image mentale qui représente l'idéal pour moi. Le monde devrait être solidaire et fraternel. Hein. Et puis, j'ai la réalité en face qui me dit autre chose, et c'est la guerre. C'est la guerre entre ces deux images. D'une part, mon image mentale, d'autre part, ce qui se passe, hein, dans le monde. Et pourquoi je souffre ? Parce que j'essaye de faire coller le monde à mon image mentale. Hein. C'est-à-dire que je n'accepte pas le monde tel qu'il est. L'accepter, ça ne veut pas dire le cautionner, hein. Ça veut dire juste voir que c'est ce qui se passe, c'est ma réalité. Mais j'ai une image mentale qui dit autre chose et ça tiraille. C'est ça le jugement. Hein. Et tout ce qui divise la réalité de cette manière me fait souffrir. Hein. Si j'arrête de juger en disant le monde est comme il est, mais moi je peux très bien sortir dans la rue et rayonner l'amour le plus possible pour vraiment être comment je voudrais que le monde soit. Hein, et puis je vais voir ce que ça donne. Et là je ne m'oppose plus au monde et j'arrête cette souffrance qui est due au jugement. Chaque fois que vous dites il est trop ceci, ou je suis trop grosse, ou trop maigre, ou pas assez intelligent, ou trop petit, vous divisez la réalité. La réalité, elle est autre, et puis vous avez choisi une image mentale qui vous convient mieux, mais entre les deux, il y a la guerre. Hein. Et nous essayons de remplacer la réalité avec des images mentales, et c'est le début de toute souffrance. Toute souffrance vient d'une division. Alors, j'essaye absolument de... remplacer ce qui existe parce que je voudrais qu'il existe. Donc le problème n'est pas le monde, le problème c'est le regard, le jugement que j'ai sur le monde, dans ce cas-là précis. Hein. Si j'ai un jugement et que je m'y accroche, en moi, c'est la guerre. Hein. Si je m'oppose à ce que je vois, je souffre parce que je voudrais que ça soit autrement. Hein. C'est ça le... Alors, qu'est-ce qui nous coupe de cette liberté intérieure qui pourrait être beaucoup plus grande s'il n'y avait pas tous ces jugements-là Donc, dans les groupes de tantra, on ne va pas s'occuper de la liberté, on va s'occuper de voir qu'est-ce qui limite la liberté. Hein. Dès que je vois ce qui limite, ce n'est plus quelque chose qui est dont je suis victime, hein, qui m'arrive sans que je sache pourquoi, c'est quelque chose dont je peux devenir responsable. Hein. Je peux voir que quand je souffre, et puis je peux me dire, bon, ben, peut-être je vais essayer sans juger, hein, de voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est de mettre de la conscience sur les peurs, sur les limites, sur les conditionnements, sur les jugements, toutes ces zones-là où ma liberté se limite parce que je la limite, hein, en choisissant de juger. Mais yes, pour certaines personnes, ce n'est pas évident que c'est un choix, hein, mais c'est vraiment le choix que nous faisons. Voilà, donc ce soir, je vais développer 8 points qui sont assez essentiels dans le tantra, comme des axes de travail, mais ce n'est pas limitatif, hein, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous pensez qui est intéressant d'aborder, c'est possible. Alors le premier, c'est celui-là, qu'est-ce qui nous empêche d'être plus libre et pourquoi le tantra s'occupe des manques de liberté plutôt que de la liberté. Hein, dès que j'ai levé un conditionnement, forcément je suis déjà plus libre, hein, je n'ai pas besoin de m'occuper de la liberté en elle-même, la liberté elle arrive. Le deuxième point que j'aborderai, c'est que notre nature est joyeuse et comment retrouver cette joie comme le précepte 45 que je vous ai lu, comment la retrouver plus facilement, hein, et puis comment la cultiver un petit peu dans le tantra. Le troisième, c'est comment je peux honorer le flux du vivant en moi, hein, comment faire grandir la sensation d'être vivant. Le quatrième, c'est comment résoudre mes conflits intérieurs en acceptant de tout inclure, hein, sans mettre de côté des choses, inclure le tout. Le cinquième point, c'est unir le masculin et le féminin en moi, puisque la plupart des gens aujourd'hui savent que nous avons des énergies à la fois féminines et masculines, que nous soyons hommes ou femmes. Hein, et comment les unir dans ce que j'appelle les noces intérieures. Le sixième, c'est comment améliorer l'estime de moi-même, puisque c'est à la base de bien des souffrances, les manques d'estime, de bien des dépressions aussi. Hein, et on le fait dans le tantra en s'offrant le meilleur, en choisissant de s'offrir des cadeaux, hein, des cadeaux énergétiques, hein, bien sûr. Le septième, c'est développer l'autonomie affective, c'est-à-dire commencer à être autonome et non dépendant de ce que les autres me renvoient. Hein, c'est-à-dire, dans les relations, je suis ce que je suis, mais je ne suis pas en train de quémander quelque chose, de l'amour ou autre chose, à l'extérieur. Et puis dans le huitième, j'aborderai un des points qui sont assez explorés dans le tantra, c'est le désir. Hein. Faire un avec le désir, le célébrer, le glorifier, lui donner ses lettres de noblesse. Le désir, c'est pas seulement le désir sexuel, hein, c'est aussi le désir d'être vivant, le désir d'avancer. Voilà, c'est vraiment le flux du vivant. Ça va jusque-là? Voilà, j'ai pris quelques notes. Pour pas oublier des choses importantes. Voilà, donc... dans le tantra, pour être plus libre, je crée des groupes où il y a un cadre d'autorisation, où on peut essayer d'être un peu plus libre que d'habitude, parce que tout le monde joue à cette règle du jeu. Hein? Parfois, on met un bandeau, peut-être ce soir, tout à l'heure, on fera un exercice comme ça, parce que les Africains disent « les yeux se ferment, l'esprit s'ouvre ». Et parce que beaucoup de jugements passent par les yeux, et que quand les yeux sont bandés, les perceptions peuvent être très différentes, et on peut se rendre compte des jugements qu'il y avait avec le regard. Hein. Donc, dans les groupes, il y a un cadre, et comme tout le monde joue à ce cadre qui dit « je suis là pour moi », et pas pour les autres. Je suis là pour faire grandir ma liberté, mon autonomie. Et donc, je vais essayer de me donner plus d'autorisation pour expérimenter plus de liberté, hein, pour faire grandir ça en moi, pour me rappeler qu'en moi, il y a quelque chose de libre quand je dépasse un petit peu des choses comme des conditionnements, des peurs qui sont un peu obsolètes pour moi ou qui ne me servent pas vraiment. Voilà. Lorsque je fais ça, je peux soudain me trouver plus joyeux, plus joyeuse. Hein. Pourquoi ? Parce que quand il y a moins de peur, forcément, la joie qui est dedans peut s'exprimer. Hein. Parfois, vous vous sentez joyeux, mais si vous hurlez de rire dans le métro, vous pouvez avoir peur d'être jugé. Hein. Et puis, je ne vous conseille pas forcément, sauf qu'il y a des personnes qui font ça, hein, qui font rire des wagons entiers. Je ne sais pas si vous avez vu cette merveilleuse vidéo. Hein. Mettez un homme joyeux dans un wagon, et puis, s'il rit aux éclats, regardez ce qui se passe. Ça fait des vagues. Hein. Ça fait des vagues. Parfois, il en faut un qui se donne l'autorisation pour que tous se donnent l'autorisation. Hein. Donc, on se donne l'autorisation d'être un peu plus joyeux dans le tantra, parce qu'en vérité, notre nature, lorsqu'elle est débarrassée de toutes les brumes et les brouillards, des limites, des peurs, des conditionnements, des jugements, ou un peu, puisque on y va progressivement, bien sûr, elle se révèle, notre nature. Hein. Moi, quand j'ai fait mon premier stage de tantra, j'ai passé 3 mois dans une sorte d'extase, où tout était, rien ne me touchait, et puis je pouvais m'émerveiller de tout. Donc, quand vous êtes plus vrai, forcément, vous êtes aussi plus détendu, plus naturel et plus joyeux et plus joyeuse. Hein. Donc, moi, je compare toutes les peurs, les conditionnements à une sorte de brouillard qui est devant la joie, qui est comme un grand soleil. Et lorsque je fais ça, j'agite, hein, je dissipe le brouillard, je peux plus facilement me centrer sur ce que je suis vraiment, quelqu'un de joyeux par nature. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, ça c'est ma vérité. Mais même si parfois l'expérience est très différente, hein, l'expérience de la déprime, bien sûr, c'est pas la joie. L'expérience de la colère, c'est pas non plus la joie. Mais voilà, quelles sont les couches qui sont entre ma joie et puis ce que je manifeste vraiment. Et donc dans le tantra, nous essayons d'aborder ce qui n'est pas vraiment nous et nous essayons de renforcer ce qui est vraiment nous. Hein. Quand je dis aborder, c'est-à-dire mettre de la conscience sur toutes les limitations pour les éliminer plus facilement. Puisque quand vous voyez quelque chose, vous pouvez traiter quelque chose. Mais si c'est inconscient, ce n'est pas possible. Voilà pour la joie. Donc de temps en temps, moi je fais faire un exercice qui dure 3 minutes 23. Hein, précisément. C'est bizarre, hein ? C'est la longueur d'une chanson, en fait. Et cette chanson, elle s'appelle « It's a beautiful life ». Et l'idée, c'est d'exprimer le plus possible de joie pendant 3 minutes 23, y compris si je fais semblant. Hein, y compris, c'est pas nécessaire d'être joyeux. Et d'aller vraiment à fond là-dedans, et d'une certaine manière, comme cet homme-là qui rit dans le wagon de métro et qui fait rire toutes les 30 ou 40 personnes du wagon, d'une certaine manière, me rappeler que la joie, c'est ma nature. Hein, et puis, voir que ça augmente la vibration de mes cellules, ça augmente le pétillement de mes cellules, et puis ensuite, je peux avoir un autre regard sur l'existence quand je m'entraîne un petit peu. Pourquoi je dis m'entraîner ? Parce que c'est comme si vous faisiez du vélo pendant 20 ans, ensuite vous laissez le vélo au garage, et pendant 10 ans vous n'en faites pas. Si vous reprenez 10 ans plus tard, vous savez faire du vélo. Hein ? Vous n'avez pas oublié. Hein ? La joie, la liberté, c'est vraiment notre nature. Et c'est comme ça que je l'enseigne dans le tantra. Et dès qu'on se remet dedans, même en forçant un petit peu au début, même en faisant un peu semblant, ça revient au galop parce que c'est notre nature. Hein. Et donc, les autres, bien sûr, sont des miroirs qui nous aident à nous rappeler de ça. Voilà. Troisième point, honorer le flux du vivant en moi. Alors, chaque fois que j'ai des jugements, chaque fois que j'ai des peurs, il y a quelque chose qui se contracte en moi. Il y a quelque chose qui devient plus petit. Hein. Chaque fois que je suis joyeux, chaque fois que je suis dans le bonheur, il y a quelque chose qui s'expand en moi. Ouais. Et donc j'ai souvent le choix entre avoir une attitude de mendiant, hein, quand je me contracte, hein, en demandant aux autres de m'apporter le bonheur, par exemple, ou d'avoir une attitude d'empereur, d'impératrice, quand je me dresse. Et je peux me dresser dans la colère aussi bien que dans la joie. Je peux me dresser dans la tristesse parce que une tristesse, ça peut être célébrée, honorée, hein, aussi. Prenez l'exemple des enfants. Hein. Un enfant qui est frustré parce qu'il n'a pas eu la sucette ou le jouet, il va piquer une grosse colère pendant 15 secondes, peut-être 20, et puis ensuite il va continuer sa vie normale, hein, en jouant, en riant, parce qu'il a autorisé, il s'est dressé dedans. Mais si je suis dans la colère et que je me renferme dedans, je me contracte dedans, j'en veux à l'univers entier, je la cultive, je la fais grandir, je peux la garder pendant des années, la transformer en ulcère, en cancer, etc. Donc honorer le flux du vivant, ça veut dire être à l'écoute de mes besoins, dans ce qui doit circuler en moi, et honorer ça. Hein. Et la question que nous posons très souvent dans les groupes de tantra, mais chacun la pose pour soi, c'est quel est mon désir là maintenant? Hein, de quoi j'ai envie maintenant? Et dans le groupe de tantra, est-ce que je peux le mettre en œuvre ou est-ce que je me limite? Est-ce que je dis ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas de danser à cloche-pied, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dansez comme vous avez envie, hein, ne vous limitez pas. D'une certaine manière, nous avons été formés dans la limite. Hein. On nous a appris à nous limiter. Et je dis souvent que dans le tantra, il n'y a rien à apprendre, mais il y a beaucoup à désapprendre. C'est-à-dire des choses qui ne servent pas. Hein. Et quand vous vous limitez et qu'il n'y a pas de raison valable, vous pouvez laisser tomber la limite. Hein. C'est comme si vous aviez des grosses valises que vos parents vous ont donné, qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs parents, et puis etc. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très lourd. Et puis à un moment donné, vous vous dites, tiens, bah, pourquoi je colporte ça depuis si longtemps? Il y a un train qui part là, est-ce que je monte avec mes valises ou est-ce que je les laisse sur le quai? Hein, et quand vous voyez qu'il y a des choses, par exemple, vous vous protégez alors que vous êtes en sécurité, hein, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, mais parfois on vous a appris à vous protéger, ou parfois dans votre enfance ou d'autres événements ont fait que vous aviez besoin de vous protéger à ce moment-là, mais c'est révolu, hein, c'est plus utile aujourd'hui. Donc honorer le flux du vivant, ça veut dire aller avec mes vrais désirs, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant, et puis est-ce que je me l'autorise, hein, c'est ça. Et quand j'autorise, bien sûr, mon énergie circule. Et quand je le bloque, bah bien sûr, ça bloque. Hein. Et les conséquences de ça bloque, c'est je me sens plus petit, je me sens moins vivant, moins vivante, moins joyeux, moins joyeuse. Et donc, dans le tantra, nous nous rappelons d'honorer les désirs, hein, d'honorer ce qu'on a envie de faire. Hein, d'honorer aussi le désir de se rapprocher de quelqu'un, par exemple, sachant que à la fois nous faisons ça et à la fois nous sommes libres de dire oui, de dire non. Hein, donc si quelqu'un se rapproche de moi, comme cette femme que je remercie beaucoup là, qui m'a fait presque un mini éveil, elle m'a dit non parce qu'elle était libre de dire non. Hein. Donc comme je fais pour moi, bah, si une chose ne me convient pas, je dis non. Hein. Si quelqu'un veut faire quelque chose avec moi, mais que moi je n'ai pas envie, je dis non. Voilà, mais j'ai quand même demandé, hein, c'est-à-dire j'ai honoré ce flux-là du vivant en moi. C'est bon? Oui? Alors, résoudre les conflits intérieurs, on en a un petit peu parlé. Hein. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, tranquille, il n'y a pas d'obstacle à votre énergie de vie. Hein. Les obstacles à votre énergie de vie, c'est les conflits intérieurs. Alors, dans le tantra, nous cultivons l'idée d'être vrai, d'être entier, d'être intègre avec ce que nous vivons, puisque nous le vivons. Hein. Donc, lorsque j'ai une émotion, être intègre avec l'émotion, c'est exprimer l'émotion. Dans les groupes, s'il y a une colère, ben, je peux, pendant 10-15 secondes, ben, hurler parce que c'est là. Hein, il n'y a pas de jugement puisque j'honore simplement l'émotion qui est là. Je ne fais pas comme si elle n'était pas là. Si je suis touché et que j'ai envie de pleurer, je peux pleurer également. C'est ça, être vrai. Quand je fais ça, je ne bloque pas l'énergie des pleurs, je ne bloque pas l'énergie de la colère. Je laisse circuler. Et lorsque je bloque, il y a un conflit, une guerre dedans. Il y a d'une part l'émotion qui a envie de sortir, parce que l'émotion, ça demande à circuler, et à d'autre part, ça ne se fait pas. Hein? Je ne devrais pas faire ça maintenant. On va me juger, j'ai peur, etc. Donc ça tiraille, hein? Ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. C'est pour ça que ça fait mal à la tête, hein? Souvent, des conflits. Hein? Quand vous vous disputez avec quelqu'un, ça peut se traduire par un mal de tête. Alors, quels autres conflits intérieurs divisent? Il y a aussi les peurs qui divisent. Par exemple, j'ai envie, mais j'ai peur. Hein? Il y a une envie de s'expandre, mais il y a une peur qui fait que ça se contracte. Et donc, c'est la guerre aussi à l'intérieur. Les conditionnements, j'en parle, mais c'est un grand, grand sujet dans le tantra. Déconditionner le mental. J'ai envie, mais ça ne se fait pas. Hein? Donc, dans le tantra, on essaie de dire, ça se fait. Ça se fait, mais en tant qu'expérience. Hein, en tant que. Qu'est-ce qui se passe quand je me donne l'autorisation d'une chose que habituellement je réprime? Pour essayer, pour avoir plus de liberté. Il y a aussi les comparaisons. Il est mieux que moi, ou elle est mieux que moi. Il est plus intelligent, elle est plus belle. Hein, moi, je me sens plus petit avec ça, ou plus petite. Alors bien sûr, c'est la guerre, c'est encore la guerre à l'intérieur, parce que je compare. Voilà, et puis entendre le message des émotions et accepter l'émotion qui a un message à vous donner, hein, qui a, si vous ne entendez pas le message de la colère, ben, le message de la colère vous sera délivré plus tard, à une autre occasion. C'est comme si on était dans une salle de classe, hein. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, ben on redouble, on revient en classe parce que le message n'a pas été perçu. Donc être entier et vrai, ça veut dire essayer de résoudre les conflits intérieurs, essayer d'être vrai, hein. Quoi que ce soit qui est là, essayer de le montrer, de l'exprimer, ou en tout cas de ne pas le retenir. C'est ce qu'on essaye de faire. Le cinquième point, c'est un point qui intéresse un certain nombre de personnes en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être que si, unir le masculin et le féminin en moi. Hein. Et moi, j'ai rajouté unir le masculin puissant au féminin sensible. Hein. Ce n'est pas seulement puissant ou seulement sensible, mais ces deux-là font un ensemble. Alors, bien sûr, ces énergies qui sont yin pour le féminin, yang pour le masculin au niveau des énergies, sont présentes en chacun de nous, que vous soyez homme ou femme. Alors, dans le tantra, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de les unir, hein, de retrouver l'intégrité. Voilà, moi je peux vous dire que quand j'ai découvert le féminin en moi, après mon premier stage, j'avais un regard sur l'existence beaucoup plus apaisé, parce que c'était complet, c'était complet. Auparavant, j'étais informaticien, donc c'est oui ou c'est non, hein. Il n'y a rien entre les deux. Et puis j'ai découvert le peut-être. Non seulement le peut-être, qui est très féminin, hein, c'est oui et non à la fois. Et dans le oui, il y a du non, et dans le non, il y a du oui. Hein. Et entre le oui et le non, il y a une infinité de nuances. C'est ça le féminin qui est tout en nuances, alors que le masculin tranche. Hein. Mais parfois, c'est bon de trancher aussi. Hein. J'ai découvert qu'il y avait de la beauté autour de moi que je ne voyais pas précédemment. Hein. Donc, il y a certaines caractéristiques qui sont propres à l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, par exemple l'analyse, l'action, l'intelligence dans le sens cérébral, la compétence, la structure, la puissance, la force, l'efficacité. Hein, ça appartient pas aux hommes, encore une fois, hein, ça appartient à chacun. La rapidité, le rythme, l'initiative, le pouvoir de décider, la logique binaire, la sécurité, régler les problèmes, aller à l'extérieur, couper le cordon, voilà, et bien d'autres, hein, j'en ai listé quelques-uns. Et l'énergie yang, elle est plutôt corporelle et cérébrale, et l'énergie yin du féminin, quelques mots qui la décrivent, c'est amour, accueil, douceur, chaleur, grâce, rondeur, patience, lenteur, sensibilité, réceptivité, générosité, bienveillance, etc. Voilà. Nous portons tous ça. Alors, si nous sommes hommes, nous portons les caractéristiques du féminin à l'état de germe, hein, quand nous n'avons pas encore développé ça, hein, disons quand notre énergie est à l'état brut. Quand nous sommes femmes, nous portons les caractéristiques du yang à l'état de germe et nous avons à les développer. Alors, dans le tantra, nous essayons de développer les germes, hein, des polarités qui ne sont pas les polarités majeures. La polarité majeure d'une femme, c'est d'être yin, et la polarité majeure d'un homme, c'est d'être yang. Et puis, il y a certaines polarités majeures aussi, comme la puissance, qui ne seront peut-être pas exprimées chez certains hommes parce qu'il y a la peur. Il y a la peur d'être puissant. Hein, il y a la peur d'exprimer la puissance. Chez une femme aussi, il y a certaines polarités qui sont majeures, qui ne seront pas exprimées à cause aussi des conditionnements et de la peur. Voilà. Donc, nous essayons de développer tout ce qui est en germe et nous essayons de renforcer toutes les caractéristiques qui sont plutôt majeures, hein, lorsqu'elles ne s'expriment pas. Comment ? En nous donnant des autorisations. C'est toujours la même chose. Hein. Je m'autorise à être plus sensible. Je m'autorise à pleurer, même si je suis un homme. Je m'autorise à être réceptif. Ou si je suis un homme, je m'autorise à ralentir mon rythme. Alors que d'habitude, je vais plutôt dans un rythme rapide. Voilà. Et nous pouvons, lorsque c'est fait, commencer à voir que ça dialogue, hein, entre mon masculin intérieur, mon féminin intérieur, et que ça se complète, et que dans cet équilibre-là qui peut se faire à l'intérieur, il y a un équilibre qui peut se trouver aussi dans le couple extérieur, hein, quand je suis en relation avec un partenaire du sexe opposé. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à manifester des caractéristiques qui sont plus parlantes, hein, chez la personne qui est en face, parce qu'elles étaient peut-être un peu sous-exprimées en moi, et j'ai commencé à les cultiver, à les célébrer un petit peu plus. Donc ça fait que je suis un peu plus complet pour moi, j'ai un peu plus à donner, et j'ai aussi à donner dans un registre qui est parlant pour l'autre sexe, hein, celui qui est en face. Voilà, donc une femme, par exemple, peut avoir à apprendre à dire non, à trancher, hein, lorsque elle ne sait pas dire non, parce que Sinon, ben, le oui est aussi confus que le non lorsque le non ne peut pas s'exprimer. Hein. Donc, ce n'est pas un vrai oui tant que le oui, tant que le non n'est pas un vrai non. Si j'arrive à vraiment dire non, ben, la personne qui est en face de moi, quand je dirai oui, elle saura que c'est un vrai oui aussi. Hein. Mais si le non, c'est un. Je dis un petit non, ou je dis non, ou je dis oui parce que j'arrive pas à dire non. Alors le oui est confus, le non est confus. Donc une femme peut développer son yang, par exemple, en apprenant à dire non fermement, hein, sans appel. Ou en apprenant à dire là c'est mon territoire, hein, sans avoir peur d'envahir l'autre, par exemple. Voilà. Pour le. Alors, il y a certains stages où c'est le point principal, hein, où c'est le yin et le yang qui sont le thème du stage pour pouvoir trouver un certain équilibre ou pouvoir voir ce qui a besoin d'être équilibré. Hein, parce que souvent, voir, c'est le début de corriger quelque chose. Hein, d'abord, voir. Voilà, alors ensuite c'est un gros point, le 6, c'est améliorer l'estime de moi-même. Hein. Alors ça, j'utilise une métaphore pour enseigner ça. C'est comme si j'étais, si en moi il y avait un puits, hein, un puits qui est relié à une source d'amour. Hein. Donc la source, c'est une grande nappe, hein, un océan. Et mon puits, c'est par ce puits, je peux aller puiser de l'amour. Je peux aller me connecter à cette dimension d'amour. Parfois, j'ai le sentiment que mon puits est à sec. Hein, c'est ça le manque d'estime de soi. Parfois, j'ai le sentiment de ne pas être connecté à l'amour. Parfois, c'est difficile d'aimer. Hein, parce qu'il y a du brouillard. Hein, où j'ai l'impression que je suis en manque. Et bien sûr, quand j'ai l'impression que je suis en manque, si je vais voir quelqu'un, je vais donner le manque, je vais présenter le manque. Hein, parce que c'est ce que je suis à ce moment-là. C'est ma vérité de ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais le manque, ce n'est pas très attirant. Hein, quand vous avez quelqu'un qui implore, qui fait la mendicité énergétique ou autre, c'est pas très attirant. Hein. Mais par contre, quelqu'un qui est radieux, qui est rempli, qui déborde, hein, et qui présente quelque chose de l'ordre de la complétude, ça c'est attirant. Quelqu'un qui est libre, ça c'est attirant. Quelqu'un qui est généreux, bienveillant, ça c'est attirant. Hein. C'est pas pour rien que les maîtres qui ont trouvé l'équilibre et la paix à l'intérieur attire des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes dans le monde, parce qu'ils sont complets. Donc, lorsque je me ressens en manque d'amour, je suis déconnecté de ma propre source d'amour. Ce n'est pas à l'extérieur que je pourrais, en présentant le manque, remplir ce puits, hein, le faire remplir jusqu'à ce qu'il déborde. Donc dans le tantra, on se rappelle que nous sommes comme des rois et des reines, hein, nous pouvons célébrer le vivant, nous pouvons nous offrir des cadeaux pour nous rappeler que nous valons, que nous avons une grande valeur, hein, que nous sommes dignes d'amour. Alors, un des exemples que je donne, c'est dans un exercice de tantra. Je vais demander à quatre personnes qui sont à mon service, hein, pour cet exercice-là de me donner quelque chose de bien précis que je vais formuler moi-même comme étant ce qui représente le meilleur pour moi. Hein. Par exemple, je voudrais être embrassé sur tout le corps, hein, ou je voudrais qu'on frôle mon corps très, très, très lentement. Ou je voudrais qu'on me dise des gentillesses à l'oreille pendant 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Voilà. S'offrir des cadeaux, c'est se rappeler qu'on mérite le meilleur. Et dans le tantra, on essaie de se rappeler ça. C'est pour ça que les stages de tantra, on était en lieu dans un château, pour se rappeler qu'on est des rois et des reines, hein, et qu'on cultive un peu le raffinement, pour juste s'entraîner à se rappeler ça. Quand j'ai un désir et que je me l'autorise, je me fais aussi le cadeau de dire je le vaux bien, hein, j'ai envie de ça et je m'offre le fait d'avoir ça, d'exprimer ça, de demander ça. Et donc, avec ces invitations-là, je remplis mon puits, jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec la liberté qui peut grandir, avec la joie qui peut grandir, ce puits-là est appelé à déborder. Hein. Et quand il déborde, naturellement, c'est attirant pour ceux qui sont autour de vous. Il n'y a plus besoin, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, hein, quand je décris mon premier stage, il n'y a plus besoin d'aller chercher les autres vont venir vous trouver parce que vous êtes, c'est comme magnétique, hein, c'est beaucoup plus attirant que quelqu'un qui présente le manque. Donc on s'occupe de nous, seulement de nous et uniquement de nous, hein, dans les stages de tantra. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a des autres? Parce qu'on a besoin de miroirs, on a besoin de support d'expérience également, hein, pour entendre une parole, hein, que je dis, ou pour me renvoyer des choses qui vont me faire me toucher, hein, ou me faire réagir positivement, négativement, etc. Voilà, donc j'essaye de m'occuper de moi, c'est comme si je me disais, tiens, bah maintenant, toutes les semaines, je vais m'offrir un massage parce que je le vaux bien, parce que je sais que ça me fait du bien et parce que c'est important que je prenne soin de moi. Hein. Quand je fais ça, je fais grandir l'estime de moi-même. Donc, le premier acteur, c'est vous, hein, bien sûr. Mais moi, je crée le cadre pour que ça puisse se passer, hein, ici. Voilà, et je dis souvent dans le tantra, vous vous offrez une liberté d'agir en fonction de vos désirs, et quand vous faites ça, vous êtes positivement égoïste. Alors, c'est quoi l'égoïsme positif? C'est moi d'abord, je m'occupe de moi, je remplis mon puits, et lorsque le puits déborde, les autres en profitent. Hein. Mais je ne fais pas le chemin à l'envers qui est d'aller à l'extérieur en présentant quelque chose que je n'ai pas, hein, et c'est impossible. Donc, quand je m'occupe de moi, ensuite j'ai quelque chose à offrir. C'est ça l'égoïsme divin ou l'égoïsme positif. Hein, c'est pour mieux m'occuper des autres. Je m'occupe des autres, mais indirectement, hein, puisque c'est ce que je suis et ce que je vis qui fait que les autres sont touchés, hein, peuvent être touchés. Alors, le septième point, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Il n'y a pas de questions idiotes, hein, dans le tantra, ni ailleurs d'ailleurs. Alors, on va parler de l'autonomie affective. Alors, l'autonomie affective, c'est aussi un gros point. Hein. L'autonomie affective réclame votre liberté, bien sûr. Hein. Je ne peux pas être autonome affectivement. Être autonome affectivement, c'est l'inverse de « aime-moi ». Hein. C'est l'inverse de « j'ai envie d'être réassuré en permanence, que je suis valable hein. ». Que j'ai une valeur, je suis important, ma personne a besoin d'être confortée. On appelle ça aussi l'ego, hein, celui qui trouve sa valeur dans les yeux, dans le regard et dans le jugement de l'autre. Hein. Alors ça peut être valorisant un petit moment, ça peut être utile à courte échéance, mais bien sûr, c'est dangereux puisque l'autre peut changer d'avis. Hein. L'autre va vous aimer et puis une semaine, un mois ou 10 ans plus tard, il va claquer la porte en disant « espèce de nul ». Et là, l'estime s'écroule parce que vous avez l'habitude de croire que c'est l'autre qui fixe votre valeur. Hein. Et vous n'êtes pas autonome affectivement. Inversement, si quelqu'un vous dit t'es radieuse, vous allez monter, vous allez vous sentir bien. Vous croisez une autre personne qui est indifférente, vous dites oh, qu'est-ce qui se passe. Vous croisez une troisième personne là, qui vous juge un maximum et vous plongez. Donc votre moral, il peut faire ça. Hein. Restez comme ça, plongez. Quand vous dépendez de l'opinion des autres et du jugement et du regard de l'autre. Donc c'est important de se rappeler que votre valeur n'est pas fixée par l'autre. Ce que l'autre émet, c'est une opinion. Et c'est comme dans les sondages. Il y a oui, non, ne se prononce pas. Hein. Donc il y a des opinions positives, il y a des opinions négatives et il y a des opinions neutres. Alors prenez 100 personnes, vous trouverez de tout. Ça ne fixe pas votre valeur. Ce qui fixe votre valeur, c'est comment vous vous regardez vous-même, hein, comment vous vous jugez ou vous ne vous jugez pas, hein, comment vous êtes sincère ou pas avec vous-même, comment vous êtes vrai, comment vous êtes, vous pouvez vous autoriser vos désirs ou pas, etc. Donc, l'autonomie affective commence en vous autorisant à prendre des petits risques dans les domaines où habituellement vous vous tenez à l'écart. Hein. C'est-à-dire vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, par exemple. L'autre qui vous dise « tu es belle » ou « je t'aime » ou « tu es beau » ou « tu es important ». Voilà. Dans ces zones-là que moi j'appelle les zones grises, puisqu'elles sont à mi-chemin entre la zone blanche de confort, hein, là, dans laquelle je me sens bien, je suis à l'aise, la zone noire où c'est un peu terrorisant, hein, où je ne vais pas explorer parce que c'est trop effrayant. Dans cette zone grise, je peux prendre un petit risque parce que c'est pas, c'est abordable hein, quand même, cette zone-là. Quelqu'un disait cette belle phrase, le développement personnel commence à la limite de l'inconfort. Donc on va explorer un petit peu l'inconfort. Dans le tantra. Pourquoi ? Pour vérifier. Pour vérifier si la peur est fondée ou pas fondée. Et si elle n'est pas fondée, quoi de mieux qu'une expérience pour dire que ce n'est pas fondé ? Parce que vous pouvez rester avec quelque chose d'imaginaire pendant toute votre vie en disant « Non, je ne le fais pas, j'ai peur. » Et puis en vérité, quand vous allez essayer, finalement, ça se passe très bien. Donc c'est une sorte de laboratoire. C'est le groupe de tantra pour prendre des petits risques, parce que le cadre est sécurisé. Hein. Le cadre dit que chacun respecte l'autre, le cadre dit que vous pouvez dire oui à tout moment, vous pouvez dire non à tout moment, donc vous êtes libre par nature et tout le temps, du début à la fin. C'est important de ne pas mettre d'enjeu sur l'autre, hein. C'est une phrase que je répète assez souvent, pour se centrer sur l'objectif d'être plus libre en soi. Parce que si vous mettez un enjeu sur quelqu'un, ça veut dire que vous voulez obtenir quelque chose de cette personne, que ce soit un enjeu amoureux, un enjeu de valeur, un enjeu de quoi que ce soit d'autre, mais qui dépend de cette personne, alors c'est tout le contraire de la liberté, c'est l'attachement. Hein. Là, vous commencez à dépendre de cette personne. Donc il y a un ensemble de 6 ou 7 règles, des règles du jeu, puisque c'est un jeu, hein, que chacun joue dans ces groupes, qui font que je peux un peu plus me détendre, puisque je sais qu'il n'y a pas d'enjeu avec l'autre. Hein, je peux être vrai, je peux dire des choses, je sais que je ne serai pas jugé, puisqu'il y a aussi ce cadre de non-jugement. Donc je peux danser comme j'ai envie, je peux exprimer une émotion quand j'en ai envie. Donc ça me permet de tenter, de prendre des petits risques. Hein. C'est un peu ce qui est possible lorsque je me sens un peu plus dans la sécurité. Voilà, donc l'exploration de nos vrais désirs peut amener un sentiment d'expansion. Parce que j'arrête de dire j'ai envie mais je ne me l'autorise pas. Hein. J'ai envie mais je fais quelque chose avec. Ça ne veut pas dire que j'exprime à 100%, ça veut dire que je dis oui à cette envie-là et que je me laisse guider. Puis si l'autre dit non, ben c'est non, puis je peux faire ça avec quelqu'un d'autre. Mais en moi, je suis resté cohérent. Hein. J'ai envie et je mets mon énergie dans la direction dans laquelle j'ai envie. Et bien sûr, quand j'aligne mes actes avec mes désirs, je ne m'étonne pas qu'il y ait quelque chose qui s'amplifie en moi, puisque j'honore le vivant. Hein. J'honore qui je suis. Regardez le nombre de choses que vous vous refusez dans votre vie par rapport au nombre de choses que vous vous autorisez. Hein, et regardez le chemin qu'il y a à faire pour être plus en adéquation avec le désir. Alors, le désir, ça ne veut pas dire de se jeter sur quelqu'un sur le trottoir en lui disant « je t'aime hein, » ou en faisant l'amour sauvagement sur le trottoir. Ça veut dire « je ressens ça », je vois un homme, une femme et je me sens attiré. Voilà, je dis oui à l'intérieur, même si je ne laisse pas transparaître quoi que ce soit, mais en moi ça se réjouit, en moi ça pétille, en moi c'est joyeux, parce que j'ai dit oui. Hein. Je ne suis pas en train de dire oh là là, non, surtout pas, je suis marié. Non, non, faut pas, je regarde les hommes, moi je regarde les femmes. Voilà. Honorer le désir, ça ne veut pas dire faire quelque chose avec, ça veut dire je le reconnais, je l'honore, je lui dis oui à l'intérieur, je le laisse. Parfois, il va se traduire en acte, parfois non. Hein, mais l'énergie qui est là, elle est à honorer, elle n'est pas à réprimer. Hein. C'est comme ça que vous pouvez être plus vrai, en tout cas. Hein, c'est, voilà, donc... Dans les groupes, on se pose souvent la question « Quel est mon désir maintenant ? Quel est mon vrai désir maintenant ?» Et je rappelle cette consigne hein, pour être le plus vrai possible. Voilà, alors, comment ça se passe un groupe de tantra ? Il y a des groupes qui sont de plus en plus progressifs. Hein. Pour s'initier, il y a des soirées tantra qui durent 3 heures. La plupart se passent le jeudi à Paris 20e. Et on fait un exercice du genre de celui qu'on va faire juste après cette explication. Quelque chose qui est, disons, soft. Hein. Soft parce que... quand on apprend à être libre, il faut y aller progressivement, sinon ça peut faire peur. C'est pour ça qu'il y a des groupes d'initiation, et il y a des groupes avancés, où j'ai l'habitude de dire, on saute les préliminaires, hein, puisque on connaît, on a déjà fait un certain chemin, et on n'a pas besoin de recommencer du début à chaque fois. Donc des groupes de 3 heures qui visent à s'initier, mais aussi à avoir une petite cutie de rappel lorsqu'il y a besoin, hein. Comment être un peu plus libre que d'habitude. Il y a des groupes de 4 heures, un petit peu plus de temps. Après, il y a des après-midi soirées, et le premier événement tantra qui aura lieu cette saison, ça sera le samedi 24, et ça sera une après-midi soirée. Donc c'est entre une soirée et une journée. Hein, donc c'est de 17h à 23h, 6 heures de tantra, et dans ces 6 heures, il y a aussi une progressivité qui fait que je m'apprivoise et j'apprivoise les autres de plus en plus pour m'autoriser de plus en plus de choses. Donc c'est un bon moyen d'entrer dans l'intimité avec soi, dans l'intimité avec au moyen de l'intimité avec l'autre. L'intimité, ça peut commencer par dire le prénom, hein, ça peut être aussi simple que ça. Et ça peut aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les groupes de tantra? D'abord, on peut travailler tout seul, on peut travailler deux par deux, hommes et femmes. C'est en parité la plupart du temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. On peut travailler en groupe d'hommes séparés et en groupe de femmes séparés, qui parfois vont s'échanger des ambassadeurs. Hein, un homme ira dire des choses à des femmes, une femme ira dire des choses à des hommes. Et on peut travailler en grand groupe. Et les exercices incluent la danse, hein, parce que dans la danse, c'est facile de laisser aller l'énergie du corps et d'arrêter de juger, puisque c'est le corps ne juge pas, hein, c'est le petit moi là-haut qui juge. Ça inclut la danse, ça peut inclure la respiration, ça peut inclure la méditation, ça peut inclure des échanges de paroles, verbaux mais en conscience, hein, c'est pas du papotage, hein, c'est je raconte une expérience dans ma vie, par exemple. Ça peut inclure des pratiques énergétiques entre hommes et femmes, hein, des échanges énergétiques, hein, sous diverses formes. Et ça peut inclure des pratiques en grand groupe, hein, aussi, où on va faire des choses, les yeux bandés ou pas bandés, en grand groupe. D'une manière générale, il y a une grande variété d'exercices, mais qui reprennent un petit peu toutes ces composantes-là. C'est comme plein de moyens différents, mais pour aller dans une seule direction, devenir plus libre. Hein. Sortir de la pièce un peu plus libre qu'on y est rentré. Alors souvent on pose la question, mais ça sert à quoi de faire ça alors qu'on est protégé ? Pour retrouver ensuite le quotidien exactement pareil. Est-ce que c'est une question pour vous aussi, ça? C'est une question qui revient souvent. Hein. Donc, si vous l'avez, moi je réponds ceci. Lorsque je commence à me sentir plus libre, hein, je peux d'abord me réjouir de ça, parce que c'est agréable, hein, de se sentir plus libre, moins dans la prison des peurs. Lorsque je me réjouis, naturellement, j'élève la vibration de mes cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus joyeux, hein, c'est plus pétillant en moi. Je sors de la pièce avec ça, avec cette joie, avec ce pétillement. Quand vous pratiquez ça un certain nombre de fois, les gens de votre entourage, votre famille, vos collègues au boulot, vos enfants, vos parents, vos rapports sociaux vont commencer à s'en rendre compte. Parce que ça va commencer à devenir chez vous un pétillement qui fait des vagues. Hein. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des paroles plus libres. Vous allez commencer à ne pas faire un drame si on vous fait une réflexion. Vous allez commencer à laisser tomber les amis qui vous pompent de l'énergie ou qui ne vous intéressent pas. Vous allez peut-être avoir d'autres amis. Donc c'est ça, hein, le bénéfice. Vous, ici c'est un laboratoire, dans les groupes de tantra vous expérimentez des choses pour ensuite aller le propager, hein, par vagues dans votre quotidien. Et simplement en vous centrant bien sur vous, hein, et en vous attribuant toutes les libertés supplémentaires que vous avez pu vous attribuer. Donc c'est plus facile quand on voit des gens qui font la même chose. Hein, c'est comme cette personne qui rit dans le métro. Hein, il suffit d'une personne qui dise oui, et puis le oui peut être plus facile parce qu'il n'y a plus le contexte du regard de l'autre, hein, puisque c'est sans jugement et puisque tout le monde joue à cette règle du jeu. C'est un petit peu ce qui favorise une plus grande liberté dans les groupes. Donc plus vous venez, plus vous pouvez être libre et plus vous pouvez transporter cette liberté à l'extérieur. Et la liberté, elle s'accompagne aussi d'une plus grande paix. Hein, la paix, c'est résoudre les conflits intérieurs. Elle rentre du boulot en colère. Elle rentre du boulot en colère. C'est ok, qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu veux que je te prenne dans mes bras? Si j'étais pas libre, je pourrais dire... « Oh, dis donc, encore elle rentre comme ça, non mais quand est-ce qu'elle va revenir avec un sourire ?» Et le conflit, il est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc la liberté peut vous donner cet autre regard sur chaque situation, hein, dans votre vie intime, professionnelle, privée, familiale et sociale également. Voilà, je pense pas que j'ai tout dit, hein, mais je pense que j'en ai dit déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à demander? Par exemple, est-ce que ce que j'ai dit est conforme à ce que vous savez du tantra? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous savez du tantra, ou que vous pensez savoir, que je n'ai pas dites? y a certains lieux-dits hein, dans le tantra. Alors, il y en a qui pensent qu'il faut être absolument en couple pour faire du tantra, ce qui est absolument faux, puisque ce sont des techniques d'expansion de la conscience, et il n'y a pas de conscience de couple, il n'y a qu'une conscience d'un individu. Donc, bien sûr, je peux venir en couple, mais ce n'est pas destiné au couple, et c'est important de faire la différence. Hein. Donc, le tantra... je fais d'ailleurs des soirées couples hein, cette année. Il y a 5 ou 6 rendez-vous, des soirées réservées aux couples pour sortir du quotidien, envisager une relation à l'autre sous un angle différent et puis se faire des cadeaux. Hein, voilà, s'émerveiller de l'autre, trouver, sortir de la routine, des choses comme ça hein, dans le couple. Mais appliquer l'énergie du tantra au couple. Hein. Et puis si vous êtes en couple et que vous faites du tantra tout seul ou toute seule, ce que vous venez développer ici, l'autre, quand vous rentrez chez vous, va bénéficier des fruits de votre liberté. Hein, il est aux premières loges, donc il n'y a pas d'enjeu dans les groupes de tantra. Quand vous développez votre liberté, vous le faites de vous à vous. Hein, et puis votre partenaire, forcément, s'en rendra compte. Donc, ça peut se faire à deux, mais ça peut se faire aussi chacun séparément, dans des groupes différents ou dans le même groupe. Hein. Tous les groupes qui sont ouverts à tous sont aussi ouverts aux couples, mais par contre, les groupes réservés aux couples n'acceptent que des couples. Hein, c'est ça le... Alors, c'est moi qui gère la parité, et quand vous venez, vous vous inscrivez, et puis si jamais il n'y a pas la parité, je vous mets en liste d'attente, jusqu'à ce que ça soit équilibré, à ce moment-là, je vous dis que je peux vous inclure dans le groupe. Il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « Bonjour monsieur, je voudrais m'inscrire à votre stage de massage tantrique. » Et il y a souvent la confusion qui est faite entre tantra et massage tantrique. Le tantra, c'est des techniques d'expansion de la conscience. Le massage peut expandre la conscience, hein, peut vous ouvrir des perceptions très très belles, mais c'est loin d'être l'ensemble de ce qu'on peut faire dans le tantra. Parfois il y a du massage, parfois il n'y en a pas hein, dans les groupes. Donc c'est réducteur de dire que le massage tantrique, que le tantra c'est le massage tantrique. J'en fais assez peu d'ailleurs. Et puis, je dirais que c'est une façon d'utiliser ceux qui ne font que du massage tantrique, d'utiliser le tantra pour autre chose que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire expandre la conscience, hein, trouver de la liberté. Hein, c'est plus vaste que juste un massage, sans dévaloriser le massage en lui-même, hein, bien sûr. Il y a beaucoup d'idées reçues à propos du tantra et de la sexualité, hein, que ce serait des techniques pour améliorer la sexualité. Ça, c'est absolument faux. Hein. Sur les 112 préceptes du tantra, il y en a 3 qui parlent de sexualité, seulement 3. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. 68, 69, 70. Ah, la plupart des gens remarquent. On utilise l'énergie sexuelle. Hein. Ce ne sont jamais des groupes où il y a de la sexualité. L'énergie sexuelle, c'est le désir. Hein. Mais il y a une règle du groupe qui dit que on ne va jamais jusqu'à l'acte sexuel. Hein. Ce n'est pas le but, et ce ne sont pas des groupes sur la sexualité, ni sur trouver une performance, ni sur développer la sexualité. La sensualité est considérée comme l'énergie vitale qui est le support de tous nos actes, hein, l'énergie sexuelle. C'est cette énergie-là qui fait que je suis vivant, hein, l'énergie qui part de la Kundalini, du premier chakra. Donc il y a des après-midi soirées, hein, il y en a quelques-uns dans l'année. Il y a des journées entières, c'est soit le samedi, c'est intensif, hein, de 11h, de 10h à 23h, et ça comprend deux repas qu'on prend ensemble. Soit le dimanche, c'est un peu plus court, de 10h à 21h, hein, et on prend un repas partagé ensemble. Après, il y a des week-ends complets qui se passent ici, hein, où on dort sur place, hein, comme il y a des chambres là-haut. Et donc c'est encore plus intensif, je dirais que c'est une plongée dans l'intimité, hein. C'est-à-dire que même si c'est progressif, eh bien les exercices sont de plus en plus profonds. Et donc c'est 10h jusqu'à minuit le premier jour, et puis 9h du matin jusqu'à 20h le dimanche, hein, en général. Donc c'est quand même assez intensif. Pourquoi c'est intensif? Pour prendre le mental un peu à rebrousse-poil, hein, pour laisser le mental se reposer, hein, puisqu'on ne s'adresse pas au mental dans ces groupes. Donc c'est la plupart du temps du samedi matin au dimanche soir. Il y aura un réveillon tantrique cette année, comme l'année dernière. Donc ça va vraisemblablement se passer en Seine-et-Marne. Donc celui-là. Il va commencer le vendredi soir, ce sera résidentiel, jusqu'au dimanche fin d'après-midi. Il y aura une soirée festive le samedi soir, avec un dîner de réveillon aussi, un dîner festif, dans le sens du tantra, hein. C'est-à-dire que ce sera, il y aura une soirée tantrique festive, hein, un petit peu comme ce soir, mais peut-être un peu plus profonde, plus intime. C'est ouvert à tous et le logement sera collectif, hein. Pour celui-là, il y aura très peu de chambres particulières. Il y a un Noël tantrique comme tous les ans. Alors le Noël tantrique, c'est si vous n'avez pas avec qui passer Noël. Ou si vous voulez plus passer Noël comme vous le faites chaque année, on se réunit comme une grande famille ici et on fait un rituel de naissance, puisque Noël c'est la naissance, hein, on fait un repas ensemble auquel chacun collabore et on fait un rituel de naissance tous ensemble. Donc on est généralement entre 20 et 30 personnes chaque 24 décembre au soir ici. Et pour terminer, il y aura, comme cette année, un stage dans un château qui va se passer en août. Je crois que c'est le 8 août, pendant 5 jours, du 8 au 13. Le château de Bellevue, un endroit très très beau, décoré à l'indienne et avec de la nourriture indienne ayurvédique, très raffinée, très très goûteuse. Et puis on est servi, et puis le cadre est formidable. On est à 2 km du village le plus proche, il y a des grands espaces naturels. Il y a des pauses élargies à l'heure du déjeuner pour pouvoir se ressourcer dans la nature, etc. On était 20 cet été-là à profiter de ce très beau lieu. C'est dans le Jura. Et le château de Bellevue porte bien son nom, hein, parce qu'il y a une très belle vue tout autour et les chambres sont royales, c'est le cas de le dire, parce qu'on est comme des rois et des reines. Les chambres sont claires, lumineuses, très belles, et puis il y a différents types d'hébergement, hein, à différents prix. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Voilà, je vais faire un tout petit peu de silence, disons. 2-3 minutes, si dans ces 2-3 minutes quelque chose vous vient et que vous voulez partager ou demander, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de jugement dans cette soirée, hein, puisque c'est du tantra. Et puis ensuite, je vous exposerai l'exercice que j'ai prévu pour ce grand moment.